Deux autres femmes ont été tuées au cours des dernières heures à Sainte-Sophie dans les Laurentides. On se souvient, hier matin, on parlait de deux femmes blessées grièvement. Par la suite, un premier constat de décès, puis un deuxième. Tout ça, d'après ce qu'on comprend, l'œuvre d'un homme frustré, enragé, qui aurait pris une hache pour tuer ces deux femmes. Sabrina Rivet est avec nous. Donc, ça veut dire que cet homme-là est en colère, acceptait pas une rupture de ce qu'on comprend. Et il s'en est pris à son ex-conjointe au tout début de l'altercation.
Oui, et ce sont des meurtres très, très violents qui sont survenus lundi soir à Sainte-Sophie dans les Laurentides. Des meurtres qui ont été commis à l'aide d'un objet tranchant, tu l'as dit, Paul, avec une hache. Alors, les victimes, c'est Sylvie Bisson, âgée de 60 ans, qui détenait un DEP en secrétariat, et Myriam Dallaire, 28 ans, qui était, selon sa page Facebook, une éducatrice à l'enfance. Il s'agit d'une mère et sa fille. Et évidemment que toute cette situation est vraiment ébranlée. La famille immédiate, et c'est le cas pour le frère de la femme de 60 ans qui a dit qu'il n'avait pas de mots pour décrire les sentiments qui l'habitent. Il a mentionné que sa sœur et sa nièce auraient été tuées parce que l'ex de sa nièce n'aurait pas accepté la séparation. Et là, de ce qu'on peut comprendre, effectivement, c'est que le couple, en fait, l'ex-couple habitait au rez-de-chaussée, les parents habitaient au deuxième étage, et l'altercation aurait débuté entre l'ex-conjoint et Myriam Dallaire, âgée de 28 ans, et ensuite la femme serait descendue, la mère de famille, pour tenter d'aller porter secours de ce qu'on se comprend dans la situation. Et là, d'ailleurs, je me suis rendue hier sur place en fin de journée. Il y avait toujours un périmètre de sécurité, le service de l'identité judiciaire qui était sur place. Et la résidence dans laquelle les deux femmes ont été retrouvées de 28 et 60 ans, c'est une résidence bigénérationnelle qui est située sur un cul-de-sac entouré d'une forêt. Là, c'est vraiment un secteur très tranquille et très reculé quand même dans Sainte-Sophie. Et la famille est assez connue dans le quartier parce que la résidence appartenait à la famille depuis deux générations. Et je vous laisse entendre là-dessus un voisin qui a été témoin de l'important déploiement policier. En fait, il habite tout juste à côté de la résidence.
Moi, je parlais au téléphone avec mes parents. Puis là, à un moment donné, j'ai vu un truc. Je pensais que c'était un truc de déneigement, là, mais non, c'était une ambulance. Puis après ça, la police est arrivée. Puis une autre ambulance, là, autrement dit.
Et là, il y a quand même un suspect là, qui a été appréhendé. C'est un homme de 33 ans qui serait donc l'ancien conjoint de la femme de 28 ans. Il a été arrêté parce qu'il aurait causé un accident, une collision frontale de manière volontaire sur la rue Bélanger à Saint-Jérôme. Ça, c'est à peine à quelques kilomètres des lieux où le double meurtre a eu lieu. Alors, il pourrait s'agir de Benjamin Soudin ou Soudine qui possède des antécédents judiciaires. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y avait pas de traces de freinage là, nécessairement sur le sol et qu'il s'agirait donc d'une tentative de suicide. L'impact a été violent. On peut aller écouter une résidente qui habite là environ à 50-60 pieds de où a lieu l'accident.
Je me suis couchée vers 9 heures, puis j'écoutais la télé, puis j'ai entendu un gros boum. Vraiment un gros boum, parce que je me suis comme assis carré dans le lit. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Moi, dans ma tête, c'était vraiment comme deux autos qui font un face-à-face. Puis là, on est monté, moi, je suis mis en étage, on est monté en haut dans le salon. Puis c'est là, par la fenêtre, qu'on a vu arriver là, 5-6 autos de police, 3 camions de pompiers, 3 ambulances. Puis c'est là que j'ai vu l'auto. Le devant très magané. Là. Il était vraiment monté sur le banc de neige, là, l'auto, là.
Le suspect, à la suite de l'accident, a été hospitalisé parce qu'il a été blessé grièvement lors de la collision. Et à un certain moment, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était inconscient hier. Alors, dès que son état de santé le permettra, il sera rencontré par les policiers. Alors, évidemment, que l'enquête se poursuit dans ce dossier.
Merci, Sabrina. Il y a des gens qui ont communiqué avec nous pour nous dire, entre autres, que c'est un homme qui a des antécédents criminels, oui, mais de violence conjugale. Dans un des cas, il y aurait une sentence, comme on dit, à purger dans la communauté, des travaux communautaires, bref, peu de choses, et qu'il terrifiait pas mal les gens de son entourage, et notamment cette ex-conjointe. Puis je vous rappelais aussi que le couple venait d'avoir un enfant, ça veut dire qu'il y a un petit bonhomme de moins d'un an qui vient de perdre sa mère, sa grand-mère, et l'auteur présumé de ce carnage, c'est son père. Devant de tels événements violents, il y en a eu beaucoup depuis le début de l'année. Je prends le cas de Saint-Hyacinthe, il y a quelques jours à peine, une femme, Nancy Roy, 44 ans, poignardée par son conjoint. C'est lui qui est accusé à Saint-Hyacinthe. Les gens ont témoigné. Pour dire quoi? Bien, pour dire que Jean-Yves Lajoie est un homme hyper contrôlant, pas capable d'endurer une seconde que sa femme puisse parler à quelqu'un d'autre, qu'elle puisse avoir ses propres activités. Les gens disaient, ouais, mais... Il la gardait comme prisonnière à l'intérieur, était en train de le laisser, puis il devenait agressif quand il sentait que il n'avait pas toute l'attention. J'en parle ce matin avec Ingrid Falaise, qui est porte-parole de la campagne SOS Violence Conjugale. Madame Falaise, bonjour.
Bonjour, Paul Arcand, ça va bien?
Ben, ça va bien.
Oui.
Dans les circonstances, c'est assez troublant. Quand vous entendez un tel drame, vous avez votre expérience, évidemment, personnelle que vous avez partagée avec les gens, avec les livres, les séries et tout ça. Vous êtes porte-parole de cette campagne SOS Violence Conjugale. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui vous écoutent ce matin, d'une part, puis qu'est-ce que vous dites aux hommes qui vous écoutent aussi?
Ben, je dis que c'est un problème sociétal. Je dis qu'il faut que ça change. Je dis qu'il faut éduquer nos enfants dans le respect parce que l'amour sans respect n'a pas la même couleur. Je dis qu'il faut absolument que les 190 recommandations qui ont été mises en place dernièrement par le comité transpartisan soient appliquées très, très, très rapidement. Il faut que ça bouge, là. Chaque année, on le voit, chaque année, il y a une dizaine de femmes qui meurent sous l'emprise de leur conjoint violent. C'est grave et ça change pas année après année et c'est ça qui me désole. Donc, on fait des pas. Là, il y a un comité qui a mis en place des recommandations, mais quand est-ce qu'on va prendre des actions concrètes pour sécuriser nos femmes et nos enfants? C'est urgent, c'est un problème majeur de société. Alors, j'ai bien hâte que rebâtir la confiance dans le système judiciaire, ben, ça soit vrai, parce qu'en ce moment, on perd confiance, malheureusement.
Donnez-moi un exemple là, très clair, très précis, de ce qui devrait être fait rapidement pour mieux protéger les femmes.
Ben, de un, appliquer un filet de sécurité pour les femmes. Je veux dire, quand il y a des antécédents judiciaires, quand il y a eu déjà de la violence conjugale, c'est des signaux majeurs, là. C'est comme des homicides qui vont être annoncés. Le filet de sécurité pour les femmes, il n'est pas mis en place. Je veux dire, les 810, ça ne sert pas à grand-chose en ce moment parce que tout repose sur les épaules des femmes. Alors, c'est très, très difficile de protéger les femmes et les enfants. Quand il y a eu violence conjugale, c'est déjà un signal d'alarme majeur parce que les M de ce monde, comme je les appelle, les manipulateurs narcissiques violents, les pervers narcissiques, les monstres, ils n'acceptent pas les ruptures. Lorsqu'il y a eu harcèlement, c'est déjà un signal d'alarme qu'il faut prendre en considération, mais c'est pris à la légère encore aujourd'hui et c'est très, très difficile de les arrêter. Il faudrait les arrêter. Il faudrait que le contrôle coercitif soit reconnu au niveau de la justice. Il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça qu'il y a 190 recommandations et chacune d'entre elles devrait être appliquée.
J'ai reçu un courriel hier soir, puis j'aimerais le partager. Je vais le résumer puis avec vous, puis vous entendre sur ça. C'est une femme qui est en procédure de séparation avec un conjoint qu'elle dit contrôlant, qui n'a pas été violent, mais qui en même temps donne l'impression que, un, il n'accepte pas la rupture et que, deux, il pourrait peut-être basculer. Et la question qu'elle pose, est-ce que je suis mieux de faire une rupture brutale, dire « écoute, tu sors, je ne veux plus te voir, c'est terminé » ou d'accepter que progressivement, le couple se sépare. Il y a des enfants qui sont également en cause dans cette histoire-là. Autrement dit, est-ce que c'est préférable de couper les liens puis dire « c'est terminé, merci, bye » ou si encore on essaie de dire « ben on peut, le temps que tu trouves un endroit, ça me dérange pas que tu cohabites avec moi encore pendant un certain temps ». Vous pensez quoi de ça?
Moi, ce que je pense, c'est que la fuite, il faut la planifier parce que, comme je le disais plus tôt, puis on le voit, là, c'est souvent en temps de rupture que les conjoints violents vont tuer la victime. Donc, il faut que ça se fasse avec l'aide de maisons d'hébergement, avec accompagnement, avec intervenants qui aident à planifier la rupture parce que ils n'acceptent pas qu'on quitte. Ils deviennent complètement fous lorsqu'on quitte, lorsqu'ils perdent le contrôle sur nous. Alors, c'est très, très, très important, oui, d'y aller doucement, mais d'aller trouver refuge, d'aller trouver de l'aide extérieure, de plus se retrouver seul avec ce conjoint conjoint-là parce qu'on ne sait jamais quand justement il va sortir la hache ou quand il va tilter. On ne sait jamais. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Alors, il faut être accompagné là-dedans et tout planifier. Quitter quand il n'est pas là et ne jamais retourner seule. On l'a vu avec Daphné Boudreau, elle est retournée chercher un cellulaire seule. Ben, elle a été assassinée. Ça arrive. Donc, je pense que c'est les maisons d'hébergement qui sont vraiment là pour vous assister. Il y a SOS Violence Conjugale qui peut vous diriger vers les bonnes maisons d'hébergement. Les intervenantes connaissent ça. Ils connaissent comment vous accompagner, comment vous aider et comment bien vous diriger hein, pour cette rupture-là. Donc, aller chercher de l'aide, c'est hyper important de ne pas se retrouver seul là-dedans.
Merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Ça fait plaisir. Merci.
Au revoir. Ingrid Falaise est porte-parole de la campagne SOS Violence Conjugale. Elle écrit des livres, vous avez vu les séries également, parce qu'elle sait ce que c'est, elle l'a vécu. Et hier matin, je parlais de cette famille d'accueil qui a accueilli un enfant de 2 ans. Puis je ne reviendrai pas sur le sujet comme tel, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire un enfant qui se retrouvait pris avec des parents biologiques qui contestaient la moindre décision. Puis là, tu reviens toujours à ça. Quelle est la place de l'enfant quand vient le moment de décider? Est-ce que c'est l'enfant qui est important ou les droits des parents biologiques? Puis là, on parle de cette violence. Je vais recevoir plus tard dans l'émission Nancy Audet, journaliste que vous connaissez, qui a été à TVA dans le sport, par exemple, et qui publie un livre qui s'intitule « Plus jamais la honte », où elle raconte ce que c'est que de vivre la violence. Pour un enfant, on parle de la violence faite aux femmes, mais la violence faite aux enfants. Elle vient d'un petit village en Abitibi, et c'est sa mère qui souhaitait avoir un garçon, qui a eu une fille, elle, ben, qui n'a rien voulu non seulement savoir de cet enfant-là, qui est Nancy Audet, mais en plus, l'a isolé des autres membres de la famille pour lui infliger des sévices psychologiques, physiques. Et tout ça dans un environnement où personne parle, où les gens sont plus ou moins témoins. Petit village, là, tu sais, le genre où tout se sait un peu, puis c'est important la belle allure puis la bonne apparence. Ben, elle a traversé ces épreuves-là, puis à travers ça, il y a eu donc aussi la DPJ. On va lui parler tantôt.